Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine des entretiens. Par les temps qui courent, c'est donc chaque soir une discussion d'une heure avec les artistes dans l'actualité culturelle et ce soir avec Rocío Molina.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas t'y mettre.
Marie Richer.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Il y a des gestes que l'on comprend en les faisant, des gestes qui nous font et qui nous précèdent même. Il y a des gestes qui nous attendent, d'autres que l'on attend et que l'on peut attendre longtemps. Il y a des phrases musicales et des rythmes qu'il faut voir venir de loin avant que leur justesse ne s'impose à notre corps. C'est peut-être d'attente dont il est question dans les deux objets qui nous font vous recevoir ce soir, Rocío Molina, le documentaire Impulso, réalisé par Emilio Belmonte, qui vous montre à la fois dans un travail sans relâche et en même temps découvrant une forme de patience face à ce que votre art du flamenco pourrait vous révéler à vous-même après tant et tant d'années de danse. Il sort en salle le 10 octobre en partenariat avec France Culture. Voilà pour le premier objet. Le second, c'est le spectacle Grito Pelao qui se joue du 9 au 11 octobre au Théâtre de Chaillot à Paris et qui tisse de chants, de danse, de paroles, la question de la maternité, du désir et du corps féminin, cette fois l'attente se tournant vers un bébé à venir. Bonsoir Rocío Molina, bienvenue et merci beaucoup d'être là.
Buenos días.
Et bonsoir à vous Paloma Gulmo qui allez traduire vers le français.
Bonsoir.
C'est le début du documentaire Impulso, donc réalisé par Emilio Belmonte. Et c'est un début que l'on entend plus qu'on le voit, puisque l'image est noire et on entend déjà vos pieds, Rocío Molina. Lorsque vous avez dit « Ok, c'est le moment, on peut faire ce film » à Emilio Belmonte, c'était pourquoi ? Pourquoi d'un seul coup c'était possible de laisser une trace de votre travail ?
Bueno, la verdad que primero por el entusiasmo y percibí una sensibilidad muy especial de Emilio Belmonte.
La façon dont Emilio de Belmonte perçoit mon travail, qui est donc Emilio le réalisateur. Et puis également parce que cela me semblait extrêmement intéressant de comprendre le processus créatif au sein du flamenco. Parfois, on a l'impression que c'est un art qui naît en fait d'un duende, de ce feu sacré et qu'il est présenté d'une façon parfaite et que c'est, qu'il n'y a pas de pensée derrière, qu'il n'y a pas de travail. Tout ce qui contourne le travail. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait un documentaire comme ça et que moi, en tout cas, je n'avais jamais fait un documentaire de ce type.
Mais ça fait très longtemps que vous dansez, ça fait très longtemps que vous travaillez justement à cet art du flamenco. Qu'est-ce qui fait que maintenant c'était possible? Est-ce que ça correspond à un moment particulier dans votre travail, Rocío Molina?
Bueno, sí, la verdad que llevo muchos años, ¿no?
Oui, cela fait maintenant de nombreuses années que je cherche, que je Je change ma façon de créer et je crois que c'était le très bon moment, le moment parfait parce que l'équipe qui m'entoure, je pense à l'équipe technique mais aussi artistique, est parfaite. Et puis ce documentaire, il sort à un moment où il existe une véritable complicité et puis des liens se sont tissés, une confiance existe avec cette équipe artistique. Et puis d'ailleurs, sur ce documentaire, je trouve qu'on ressent bien cela.
C'est extrêmement fort, hein, la manière dont on vous voit en effet travailler avec les personnes qui vous entourent. Est-ce que vous avez mis du temps avant de les trouver, ces personnes-là? Parce que l'esprit de clan, le travail collectif paraît absolument central dans votre travail et s'est montré à l'image. Comment se sont passées ces rencontres déterminantes?
Alors, trouver ces musiciens, c'est presque aussi difficile que de trouver celui qui sera ton compagnon ou ta compagne. Parce que tu partages des expériences totalement à part et des moments extrêmement difficiles également. Très beaux au final et puis très intimes.
Et
j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu chercher et j'ai pu trouver ces gens et je passe maintenant de nombreuses années avec eux. Je crois que ça fait 10 ans que nous travaillons tous ensemble. Et on arrive au moment où à travers toutes ces années, ils ont plus confiance dans mon travail et moi, j'ai une confiance totale en eux. Et nous sommes capables de nous aventurer sur des terrains inconnus simplement parce que cette confiance nous unit.
De quoi fallait-il les convaincre quand vous dites « ils ont plus confiance en moi maintenant » Qu'est-ce qu'il fallait leur prouver? Sur quel chemin il fallait les emmener où au départ ils n'étaient pas confiants?
Pues sobre todo que cuando pisamos sobre terreno desconocido.
C'est surtout que lorsqu'on s'aventure sur ces terrains inconnus dont je vous parlais, si le pas est sûr et puis si la vérité nous guide, ça marche très bien. Même si on est vraiment mort de peur, que ce soit très étrange et que ton art et ta culture ne te permettent pas de t'aventurer dans ces zones compliquées, eh bien la liberté et cette honnêteté, eh bien il y a cette croissance personnelle. Et ça, nous l'avons pu le vérifier, eux comme moi-même. J'adore entendre cet extrait de ce film-là, Impulso, Rocío Molina. On vous entend au travail avec vos musiciens. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe là quand vous entendez ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Bueno, ahí estamos en pleno ensayo.
Alors, on est en pleine répétition et on est en train de créer. C'est vraiment le processus créatif auquel vous êtes témoin. Alors, c'est déjà difficile de créer quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi difficile d'apprendre ce que l'on vient de créer parce qu'on se souvient plus de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs. Alors, c'est très amusant aussi avec l'ensemble des musiciens. Là, on était avec les musiciens, pardon. On était en train de créer une falsetta, qui est en fait un court moment musical. Et donc, il était en train de la créer, mais en même temps qu'il la créait, il devait l'apprendre. Alors, on était tous avec lui et chanter, lui expliquer quand est-ce qu'il devait s'avancer et sortir les premières notes.
Quand vous dites que c'est difficile de créer quelque chose, on entend qu'il y a comme la nécessité pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça qui vous semble difficile, Rocío Molina ? De toujours aller vers quelque chose qui vous étonne, qui est nouveau, qui renouvelle ?
Bueno, forma parte un poco de mi obsesión buscar.
Je crois que ça rentre totalement dans mes obsessions. Essayer de trouver de nouvelles formes d'expression ou de changer de peau.
Lo único que también,
il y a aussi ce point qui est le suivant. J'aime garder l'origine de ce que je veux exprimer, l'essence même de ce qui me porte. Parce qu'au moment de la création, on prend des détours, on découvre plein de choses nouvelles. Mais j'aime toujours revenir à ce point, cette idée, ce sentiment, l'émotion même première qui m'ont porté. C'est comme si je voyage, mais je reviens toujours à ce point. Il faut revenir à l'origine à chaque fois.
Est-ce que vous avez toujours eu l'impression d'inventer votre danse ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire l'inventer. Je ne me concentre pas à inventer quelque chose. Ce sur quoi je me concentre, c'est de me faire vibrer. Notamment ne pas rester enfermé dans quelque chose. Et c'est vraiment une terreur pour moi. Et ceci à tous les niveaux. Je ne veux pas tomber dans la facilité, ce qui fait que je me mets toujours dans une situation inconfortable pour découvrir quelque chose de nouveau.
Et ça se joue beaucoup dans l'échange avec les musiciens, dans ce documentaire Impulso. C'est très frappant la manière dont il n'y a pas d'un côté la musique et d'un côté votre danse. Il y a quelque chose qui est vraiment mis en scène et mis en image sur le fait que le flamenco est l'union très profonde des deux arts. Depuis toujours, vous, votre amour, il va autant vers la danse que vers le rythme et la musique.
La verdad que el flamenco es un arte lleno de códigos.
Exactement, parce que vous savez, le flamenco est plein de codes. C'est vraiment un art très codifié. Et on peut jouer avec ces codes, ça c'est sûr. Et il y a une interaction entre les musiciens, des regards, ou également des éléments techniques. Il y a un langage extrêmement varié, un éventail très large. Mais cela peut être quelque chose qui est très amusant. Et moi, j'aime que cette offrande des musiciens, j'aime qu'ils me provoquent aussi. Et puis, j'aime qu'ils me fassent des propositions. Et puis, cette surprise qui est créée entre nous tous. Et puis, je les provoque aussi. Je pars d'un côté et je les interromps et je m'arrête là où ils ne s'attendent pas à ce que je m'arrête. Je modifie les choses et évidemment le flamenco me laisse cette possibilité. En tout cas, le flamenco que moi je comprends et que j'exprime.
Pourquoi est-ce que vous faites cette précision-là ? En tout cas, le flamenco que je comprends et que j'exprime, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est qu'on pourrait appeler votre flamenco, Rocío Molina ?
Bueno, no lo sé. Si existe algún
flamenco. Franchement, je ne sais pas s'il existe un flamenco qui n'est que le mien, mais j'espère pouvoir offrir cette liberté d'esprit dans ma danse et qu'on la retrouve dans mon flamenco. Le flamenco peut être très hermétique si on le souhaite, parce que c'est une danse pleine de traditions. Enfin, c'est un art plein de traditions. Par exemple, le cantao doit se faire d'une façon très traditionnelle. La structure même d'un d'une danse traditionnelle est construit de façon très précise et il faut suivre les différentes étapes. Mais il y a aussi, enfin, moi je comprends bien que le flamenco offre une liberté et puis on peut casser, on peut arrêter, on peut offrir une autre harmonie. Et à mon sens, c'est un art très vivant et très libre. Et le flamenco, dans lequel je me retrouve et dans lequel je vibre, c'est celui-là.
L'intérêt de l'improvisation, c'est d'avoir un point de repère et montrer à partir d'un point de repère ce qu'on peut faire. Justement, le challenge, c'est de jouer à partir d'une base très simple et très connue, de montrer jusqu'où on peut aller en improvisant. Je veux dire que l'improvisation, ça peut être qu'un ramassis de radotages, une succession de clichés déjà éculés. Ce qu'il faut fuir avant tout, c'est les redites. Ou alors, on n'est pas un improvisateur, on est un répéteur. Le mot n'est pas probablement le bon, mais c'est ça, les redites, je trouve ça détestable. Mais on est esclave de soi-même, il ne faut pas espérer renouveler son langage chaque fois. Tous les musiciens ont leur façon d'être, les plus grands comme les moins bons. Quand Charlie Parker jouait, on le reconnaissait. Pourquoi ? À cause de ses phrases, sa façon de les jouer, sa sonorité, etc. Donc, nous sommes à la fois victimes de nous, mais on peut, à l'intérieur de ces redites, varier suffisamment pour avoir l'impression d'inventer.
On entend la voix de Martial Solal, pianiste jazz au micro en 2018 d'Yvan Amar sur France Musique, qui parle des moments d'improvisation. Et ce film, il nous donne la chance, Impulso, de vous voir dans des moments d'improvisation avec vos musiciens, Rocío Molina, mais aussi de vous voir avant. Et on entend et on vous voit, et vous et vos musiciens, dans une forme d'appréhension, quelque chose qui à la fois vous rend joyeux, vous excite et vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'improvisation et qu'est-ce qui vous rend si joyeuse?
Bueno, la verdad que es una hacer la improvisación siempre trae muchos conflictos, ¿no?
L'improvisation crée de nombreux conflits, notamment entre les artistes. J'aime beaucoup la définition qui vient d'être donnée.
Alors,
qu'est-ce qui me fait peur dans l'improvisation? Alors, je t'explique. Ce que moi, j'apprécie le plus, c'est lorsqu'il y a une improvisation, tout est permis. En tout cas, pour moi, tout est permis. Et donc, tu perds cette peur. Alors, dans l'erreur, peut-être, tu trouveras une surprise. Celle que tu cherchais. Et ce qui est très amusant, c'est aussi, tu sais que ça marche, parce que rien n'est écrit, tu ne peux pas comparer avec un élément existant, et tu peux savoir si ça marche ou ça ne marche pas, et tout va, tout marche.
Et alors, qu'est-ce qui vous rend si joyeuse?
Ce qui est très surprenant, c'est lorsque je me lance dans l'improvisation, il faut vraiment créer un lien avec la terre, avec une connexion avec tout ce qui t'entoure, et surtout si tu es accompagné de musiciens, mais même si tu es seul, c'est un lien, une connexion avec ton art, toi-même, qui te font comprendre pourquoi tu danses, ou pourquoi tu t'es lancé dans cet art, et pourquoi tu t'exprimes à travers lui. Il n'y a pas des éléments extérieurs comme le théâtre, la pression qu'on peut ressentir dans un théâtre, ou lorsque c'est la première, ou est-ce que les lumières sont-elles bien placées. Ce que j'aime, c'est que cela me ramène à mon enfance. C'est moi la petite fille qui s'exprime.
Est-ce que vous savez, est-ce qu'à chaque fois vous vous reposez la question lorsque vous improvisez, pourquoi je danse? Pourquoi je suis là? À chaque fois?
Cada vez que improviso.
Chaque fois que j'improvise.
Bueno, me gusta que haya algo que me recuerde.
J'aime.
Me
souvenir pourquoi je fais cela. Parce qu'il y a des fois où tu te fatigues. Ce sont beaucoup de responsabilités, ce sont beaucoup de pressions, il y a beaucoup de tournées, beaucoup de voyages en avion et il y a une vraie fatigue qui accompagne cela. Mais lorsqu'on se lance dans l'improvisation, elle t'apporte ces petites choses. C'est un peu comme si on frappait à la porte toc-toc. Et on te rappelle que cette émotion, cette cette soif de liberté, cette façon de pouvoir danser dans n'importe quel endroit, que le théâtre n'est pas un élément essentiel et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un public. Mais si tu as simplement tes chaussures et ton corps, tu peux danser et point. Un point, c'est tout. Et ça, c'est merveilleux, non?
Est-ce que vous dansez parfois complètement seul? Sans musicien, sans public, sans personne?
Pues mira,
justement, quand j'ai voulu me lancer dans l'improvisation, c'est tombé sur moi un soir. J'étais avec un ami, on était partis sortir. Et puis, il était 1h du matin et il faisait très beau. On était dans pleine campagne. Et j'ai dit, bon, écoute, salut, je vais aller me balader. J'étais dans la campagne, il y avait un pont en pierre. Il y avait une lune magnifique, il était 1h du matin. Et j'avais envie de bouger, de danser. Ça a été une expérience tellement belle. Et je me suis rendu compte que tu as besoin de personne. Ton corps bouge, il ressent. Et il y a une reconnexion avec toi-même. Et donc, et j'ai adoré ce moment.
Est-ce qu'au contraire, il vous arrive de devoir danser mécaniquement, de devoir danser sans ce dont vous parlez là, de sentiments profonds, de rapport au mouvement, de rapport à la vie, de rapport à la joie? Est-ce que depuis toutes ces années où vous dansez, il vous est arrivé de danser comme ça?
Justement,
c'est l'une de mes grandes peurs. La seule chose que tu arrives à découvrir lorsque tu répètes, tu sais, comme disait le pianiste, cette redite, cela fait très peur de tomber dans cette redite. Mais peu importe. Moi, j'ai découvert, après de nombreux spectacles à la suite, même avec une seule et même chorégraphie, on peut jouer, on peut la réinterpréter de manière totalement différente. Et même si les pas restent les mêmes, même si les gestes restent les mêmes, l'interprétation diffère. Tu peux changer ton intention et tu peux même te trouver face à une chorégraphie qui est très différente. C'est dans cette situation que j'ai trouvé une autre forme de jouissance, une autre forme de plaisir. Mais il y a des moments où je suis obligée de casser cela avec une improvisation totale.
Dans ce documentaire, Impulso, on voit que vous êtes à la recherche de quelque chose. J'ai par exemple en souvenir un moment où vous êtes à table, vous discutez avec vos musiciens et vous dites « Bon, les gars, de toute façon, on va pas régler cette question-là en 2 secondes. Il faut que nous soyons patients, ça va venir, il faut travailler encore. » Comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la quête, de la recherche. Si on essayait de la définir, Rocío Molina, ce serait quoi? Vous êtes à la recherche de quoi dans votre art?
Bueno, si hay muchas veces que...
Il y a nombreuses fois où tu cherches et tu restes bloqué. Et puis il y a d'autres occasions où tu fuis.
Alors,
parfois tu ne sais même pas ce qui se passe en toi. Et puis il faut juste du temps. Du temps pour réaliser, comprendre et ne pas. On ne peut pas forcer ce mouvement. Et c'est là où moi, je m'appuie sur les musiciens et tous ces artistes qui m'accompagnent. Parce que je sais que si moi, je ne le comprends pas, eux ne me comprendront pas non plus. En nous donnant du temps, arrive le moment où les choses prennent leur place. Alors, on ne sait pas d'où ça sort, hein, mais les choses ressortent et ce qui doit exister, existe. J'ai totalement confiance en ce sentiment de perte, c'est-à-dire je suis perdue. Et alors, c'est comme ça. Au début, je suis très nerveuse. Et puis, tu sais que c'est un moment à passer et tu comprends que c'est un moment nécessaire, ce sentiment de perte. Tu restes tranquille, calme. Je suis totalement confiante en cette connivence avec l'art, le hasard aussi. Et puis, je sais que quelque chose va apparaître au moment dit. Il faut juste avoir cette patience de l'attendre. Et voilà.
C'est peut-être très intime comme question, Rocío Molina, mais j'ai quand même envie de savoir... Qu'est-ce qui fait que vous avez tant confiance dans le flamenco?
Pues mira, el flamenco confío en él y cada vez
le flamenco, j'ai confiance et chaque fois je l'aime plus.
Porque
et plus parce que c'est comme si chaque jour j'étais un peu plus amoureuse. C'est comme s'il y a un retour de sentiment. C'est comme si les énergies me revenaient et cet amour me revenait. Même lorsque je m'éloigne, il y a bien des moments où volontairement je m'éloigne du flamenco. Mais le retour est d'autant plus fort. Le retour de flamme est plus fort. En plus, c'est un art extrêmement riche, en tout cas pour moi, et qui est très libre. Et lorsque tu le ressens dans ton corps, dans ta peau, et quand quelque chose vibre de l'intérieur, te consume, quand un cante te transforme le visage, et ça c'est lié à l'émotion, et tu peux commencer à sourire, tu dis ah, putain dingue, il s'est passé quelque chose dans mon corps, et ça tu peux pas le laisser passer, tu peux pas l'oublier.
Le début du film vous montre les yeux fermés, et d'ailleurs nous aussi nous commençons à regarder le film dans le noir, simplement en écoutant. Est-ce que c'est une manière dont vous travaillez, Rocío Molina? Vous vous bandez les yeux? Est-ce que ça vous arrive souvent? Et si oui, pourquoi?
J'ai travaillé parfois les yeux fermés. La façon dont je travaille avec mon corps, c'est une idée de dimension et de volume. J'ai l'impression de bouger l'air, un peu comme s'il y avait une bulle d'air qui m'entoure. Enfin, en tout cas, entre mon corps, mes bras, mes doigts, surtout mes doigts. Et il n'y a pas besoin d'avoir un contact visuel au final, simplement plus un contact lié à la texture, au volume, à la couleur.
Vous enlevez la vue, vous enlevez le regard, ça vous permet d'être plus concentré là-dessus?
Les fois où j'ai fait cela, je ne me concentrais pas plus parce que j'ai peu l'habitude de le faire. Et d'habitude, je perds mon équilibre. Alors, je pense que si c'était un exercice plus fréquent, alors je serais peut-être plus sûre de moi et je pourrais intégrer une nouvelle dimension. Mais c'est quand même très difficile. Mais j'aime bien tenter l'expérience pour que ma danse ne soit pas simplement quelque chose d'esthétique, mais qu'elles viennent d'une sensation interne.
Dans ce film, vous racontez combien être en création, présenter des spectacles, jouer devant des gens, pour vous, ça a très à voir avec presque la possibilité d'ouvrir un journal intime, de parler de votre vie sur scène et de le partager avec des gens. Est-ce que ça a été étrange, une fois que le film a été terminé, de vous voir au travail, de vous observer en train de créer, de vous observer en train de parler avec vos musiciens, de vous observer quelques minutes avant de passer sur scène? Est-ce que ça vous a tendu un miroir étonnant?
Para mí,
sí, el verte.
Al verme visto, bueno, la verdad
pour moi,
que sí,
me voir, eh bien oui. J'étais assez surprise. Parce que c'est difficile, c'est bizarre de se voir de l'extérieur. Tu te vois de l'intérieur. Et ce qui était très surprenant, c'est que c'est vrai que ta vie, tu la vis à travers tes expériences. Et c'est difficile quand c'est quelqu'un qui les raconte ou quand on est obligé de les raconter. Et ce qui est intéressant dans le documentaire, et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'il y a beaucoup de respect. Et il raconte vraiment ce qui se passe. Ce qui est très beau et en même temps très difficile à réaliser.
Pero bueno, cuando me vi,
mais lorsque je me suis vue,
la búsqueda que yo sabía que tenía en esa época,
et à l'époque, donc j'étais sur une recherche, et le temps plus tard, enfin un an plus tard, voir vers où ce chemin m'a mené, que ce soit dans mon art, dans mon corps ou en tant que personne, ça m'impressionne beaucoup. J'ai même eu peur. Je me suis rendu compte que je ne cherchais pas, mais que je fuyais en même temps.
What a monster I make. You see, instead of all that beauty from the throat, I make monsters. Well, no, in various ways. I look at this as though I were speaking in a persona. You know, it's me. After all, I could be the mother of a son and do this. I projected myself in the situation and become it in order to write the poem. Menstruation at 40. I was thinking
of a sun. The womb is not a clock nor a bell tolling, but in the 11th month of its life, I feel the November of the body as well as of the calendar. In 2 days, it will be my birthday, and as always, the earth is done with its harvest. This time, I hunt for death. The night I lean toward, the night I want. Well then, speak of it. It was in the womb all along.
C'est la voix de la poétesse Anne Sexton qui lit en anglais un de ses poèmes qui s'appelle « Menstruation at 40 ». Et juste derrière, « Grito Pelao », c'est le titre de ce spectacle qui va se jouer du 9 au 11 octobre à Paris, Rocio Molina, et qui commence dans cette ambiance qui peut être bien très aquatique ou bien très clairement intra-utérine. Et cette poétesse, vous la citez comme l'une des inspirations fortes de ce travail ou peut-être un point de départ. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle importance elle a eue? Pourquoi elle? Est-ce que c'est quelqu'un que vous lisez? Est-ce que c'est sa manière de parler du corps des femmes, du rapport à l'enfantement, peut-être d'un rapport aussi très trivial au corps de la femme? Qu'est-ce qui vous a tant inspiré chez elle?
Anne Sexton a été très présente, même dans le spectacle Caída del Cielo. Et sur celui-là, Grito Pelao, j'aime la façon dont elle décrit, elle parle de la femme, de cette façon tellement charnelle, et puis très quotidienne aussi. Tellement forte. J'aime la façon dont elle parle aussi de sa mère, par exemple, de cette façon tellement intime de s'exprimer. Elle a été très présente tout au long de la création parce que je me souviens avoir parlé avec mon utérus. Et elle a des poèmes où elle célèbre son utérus.
Et elle vous a permis de faire ça ou simplement vous vous êtes rendu compte que vous aviez ce genre de conversation et que cette poétesse, là on l'entendait, c'était une archive des années 60, avait eu ce genre de conversation? C'est un hasard de retrouvailles ou elle vous a donné la liberté d'avoir ce genre de rapport avec votre corps, Rocio Molina?
Bueno, creo que... también han sido casualidades, ¿no?
Je pense qu'il y a beaucoup de points liés au hasard. J'ai lu beaucoup de textes Anne Sexton. Et puis il y a aussi l'intuition qui accompagne le tout. Puis ce désir de femme, ce désir d'être mère et de se lancer dans ce travail extrêmement important, notamment avec le corps. Alors c'est un travail hormonal, un travail avec le système nerveux. De manière totalement intuitive. Et puis je crois beaucoup à ce pouvoir des mots. Je voulais aimer et je veux aimer mon utérus parce que à cette époque même, le désir le plus fort était celui d'être mère.
Peut-être il faut dire donc à nos auditrices et à nos auditeurs que ce travail que vous présentez à Paris, et qui est donc la fin d'une tournée, on va savoir pourquoi, est un travail qui est concomitant, une sorte de travail de réflexion dans votre art, avec la décision que vous prenez d'avoir un enfant avec un donneur de sperme et de vous lancer dans une PMA. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ce travail aurait-il pu avoir lieu si jamais vous n'étiez pas tombée enceinte, si jamais cette grossesse n'avait pas eu lieu, Rocio Molina?
Bueno, la verdad que lo primero que surge, bueno, es el deseo, incluso con caída del cielo.
La première élément qui se crée, c'est ce désir, même avec caída del cielo. C'est 5 années de désir.
Luego, pues,
et cette volonté d'être mère. Et ça, c'est le point culminant. Ensuite, il a fallu accepter ou me dire, est-ce qu'il faut que je choisisse entre être mère ou être une artiste? Et je ne voulais pas prendre cette décision parce que je ne la comprends pas, mon corps ne la comprend pas, enfin ne la comprendrait pas, je ne peux pas choisir. Et j'ai accepté de danser tout au long de cette période.
Mais vous auriez pu danser autre chose que cette question-là. Or, vous décidez que cette question-là, de la maternité, du désir d'enfant, de la transformation du corps, de la filiation, allait être au centre de votre création artistique, Rocío Molina. Est-ce que c'est une façon quoi de partager ce que vous vivez ou peut-être de comprendre ce que vous vivez à travers la création ?
Je crois que c'est avant tout une nécessité. J'ai besoin de danser et j'ai besoin de danser pour affronter ce qui m'arrive. Et la création, en ce sens, m'a permise de comprendre et d'accepter cette décision qui n'a pas été simple. D'ailleurs, Rito Pelao a crié, parle d'une façon extrêmement intime, de toutes ces peurs que j'affronte. Il y a même une partie de mon journal intime que l'on retrouve sur scène, notamment sur cette peur à l'absence, cette peur face à la solitude. Je dirais que cela a été vraiment une nécessité de le danser. Et la création m'a permise et m'a aidée à comprendre tout ce processus et à l'accepter, en tout cas d'une façon beaucoup plus saine.
Est-ce que rapidement, il vous est apparu évident que votre mère serait sur scène pour danser avec vous ?
Bueno, no fue una decisión fácil.
La décision n'a pas été simple.
Porque acercarte tanto, incluir a tu madre tantísimo en tu vida,
inclure ta mère d'une façon si forte dans ta vie après tant d'années, alors que je suis allée vraiment le plus loin possible, j'ai créé une distance extrêmement importante avec ma mère. Donc, il a été difficile pour moi d'accepter que ce devait être ma mère.
Sí, lo único que por otro lado,
mais d'un autre côté,
no podía ser otra persona,
ça ne pouvait être qu'elle. Parce que j'imaginais quelqu'un avec une présence, une personne d'un certain âge,
que no fuera nadie profesional,
qui n'était pas professionnelle,
para poder encontrar la potencia
pour pouvoir
del mensaje
retrouver la puissance
a través
derrière
de la
ce message,
fragilidad,
et puis présenter une certaine fragilité,
humildad,
et puis une certaine
también,
humilité sur scène. Elle n'avait jamais été sur scène de sa vie. Je pense que cette fragilité, elle nous donne cette force.
Il y a une danse, ou plusieurs d'ailleurs, hein, mais il y en a une où vous lui faites face, elle est assise et dans votre danse, on sent plein de choses, on sent une fille qui montre une danse à sa mère, éventuellement une fille qui défie sa mère par la danse, éventuellement une fille qui questionne sa mère par la danse, comme si tout était mêlé à l'intérieur même d'une danse que vous adressez à votre mère. Est-ce que sur le moment, je sais pas comment dire, c'est pas trop troublant, trop émouvant de la danser, cette danse-là, Rocío Molina?
Claro, sí.
Oh ben, évidemment, bien évidemment.
De hecho, recuerdo,
et d'ailleurs, je me souviens,
le
metteur en scène m'a dit au départ, Rocío, ça serait bien que tu danses pour ta mère. Et je dis que moi, j'étais très lancée sur plein de choses. J'ai dit, voilà, c'était Carlos Michele, donc qui le mettait en scène. J'ai dit, voilà, Carlos, je peux faire plein de trucs. Mais ça, jamais. Parce que cela faisait des années que je sortais ma mère de mon art. Je ne voulais pas partager mon art avec elle.
Et
le fait que ma mère soit rentrée dans cette salle de répétition, studio de répétition, elle m'a vu créer, m'improviser, c'était quelque chose qui était complètement impensable, un truc de fou. Et puis, un jour, après quelques temps, je lui dis, tu sais quoi, Carlos, je veux danser pour ma mère. Mais de l'extérieur, ça a quelque chose de très fort, mais pour moi, de l'intérieur, ça prend un sens fou.
On veut bien vous croire. Il y a des moments aussi très plastiques où votre corps se transforme. Rocío Molina, vous passez vos cheveux devant votre visage. Les corps qui dansent et évoluent autour de vous deviennent des poupées russes, des matryoshkas ou bien des poupées d'enfance. Vous apparaissez aussi avec des barbes. Enfin, vous convoquez plein d'images. Est-ce que vous sauriez dire D'où elles arrivent ces images-là? Est-ce que ce sont des images inconscientes? Est-ce que ce sont des images d'enfance dont vous parliez tout à l'heure? D'où elles sortent?
Il
y a un mélange de tout dans ces images. Pour vous dire, ce qui avance en premier, c'est le corps. Et c'est comme ça que je travaille. Le corps propose. Il vous propose une figure, une image. À travers une improvisation, naît quelque chose. Et heureusement, après, j'ai toute une équipe qui m'entoure, qui observe de l'extérieur ce qui se passe. Et cette équipe m'aide à comprendre ce que nous sommes en train de mener à bien. Il y a même des moments, notamment dans Grito Pelao, où nous ne savions pas comment expliquer ce que nous étions en train de réaliser. Et il n'y avait pas un nom à donner à cette matière qui était en train de naître. Alors après, eux, ils trouvaient des liens, certaines figures ou mouvements du corps ou des images avec des peintures. Ou avec des poèmes, comme cette image de la femme barbue,
la pintura de Rivera,
tous ces tableaux de Rivera. C'est donc un processus qui est très beau, puisque on finit par visualiser l'intérieur de la femme à travers tout ce travail qui a été réalisé avec Elena Córdoba. Pour vous dire, c'était quelque chose d'extrêmement large, mais d'abord il y a le corps, et puis à cela vient s'ajouter la compréhension de tout ce qui accompagne avec d'autres types d'art et qui vient s'ajouter.
Peut-être on peut parler un peu plus avant du travail que vous avez mené avec Elena Córdoba sur ce spectacle-là. Tout à l'heure, je disais que éventuellement les deux objets qui nous font vous recevoir ce soir, Rocío Molina, ont à voir avec l'attente, avec quelque chose qui se ralentit, avec quelque chose qui s'ancre au sol comme ça, qui devient peut-être un petit peu plus lent. Il se trouve que vous dansez ce spectacle enceinte et que vous allez arrêter de le danser là parce que vous allez arriver à 7 mois de grossesse. Au-delà de cette attente-là très concrète d'attendre un bébé, est-ce que vous avez l'impression que cette danse attend davantage? Et est-ce que Elena Córdoba vous a emmené sur ce chemin-là?
Sí, la verdad que bueno, Elena Córdoba ha sido como muy clave para
Elle a été vraiment un élément clé, Elena Córdoba, surtout pour comprendre. Et je le dis toujours, elle m'a aidé à trouver une nouvelle dimension. Il y a tout un travail d'anatomie poétique, et c'est comme ça qu'elle le qualifie. Cela a été très difficile de m'arrêter, en fait, de me stopper. Parce que, imagine-toi, on a commencé à se lancer dans la création, et le corps n'était pas je n'étais pas enceinte, il y avait juste ce désir de grossesse. 65% du temps a été consacré à une création alors que je n'étais pas enceinte. Alors, comment imaginer un corps qui est calmé, qui est beaucoup plus posé alors qu'on est... d'énergie. C'était donc très difficile, mais grâce à sa patience et à cette confiance qui existe, j'ai commencé à découvrir qu'il y a un toucher différent, que le corps est beaucoup plus sensible et que ça n'a plus rien à voir. Et il y a aussi une autre force, mais elle est différente.
Puisque vous parlez de ce travail un peu spécifique qu'elle appelle un travail d'anatomie poétique, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? C'est passé par quoi? Vous avez fait quoi?
Sí, por ejemplo, bueno,
visualizar
el interior de la mujer,
visualiser l'intérieur même de la femme, à travers un livre merveilleux avec des dessins, avec des coupes et des perspectives du corps de la femme, enfin un livre d'anatomie, et le livre d'anatomie porte sur la fertilité. Et puis, il y avait aussi ouvrir un canal qui passe de la bouche et qui traverse l'ensemble du corps et qui va jusqu'au sexe et qui passe après par l'anus.
Entonces, eso te hace descubrir
cela permet de comprendre qu'il y a des vibrations qui passent à travers la gorge, des vibrations que moi je ne connaissais pas. Je suis une bailaora, je suis une danseuse. Et ces vibrations, ces découvertes ont transformé la façon dont je bougeais. Et ça, sans m'en rendre compte.
Et de quelle manière ça a transformé votre danse ?
Bueno, a lo mejor se percibe muy poco.
Alors, peut-être que vous ne le percevez pas.
No, o sea, hay una como una liberación.
Mais je me suis sentie libérée.
Y cuando un cuerpo se libera,
et lorsqu'un pues, un corps se libère,
más fluido, más libre.
Il y a plus de fluidité, plus de liberté. C'est vrai que mon travail était basé sur la tension, la force, une explosion,
sur une muy difícil,
des prouesses en fait, des exécutions difficiles. Et puis tout à coup,
la vibration,
vous vous rendez compte qu'il y a une vibration et c'est quelque chose de complètement nouveau. Et cela fait que le bras est peut-être plus languissant dans sa façon de bouger. C'est un peu comme si on ajoute de nouveaux ingrédients à ce que sont ta nourriture de base.
France Culture, par le thème qui court, Marie Richer.
Massa.
De nouveau un extrait sonore de ce spectacle Grito Pelao et on va en venir à la musique peut-être plus précisément avec la figure de Sylvia Pérez Cruz. On l'entend ici au chant mais on entend évidemment tout le travail musical de transformation aussi de sa voix et de la musique autour qui a lieu pour cette création, Rocío Molina. Ce spectacle c'est vraiment aussi l'histoire d'une rencontre et de la possibilité de faire vivre cette rencontre sur scène. Pourquoi est-ce que Sylvia Pérez Cruz est plus qu'une musicienne sur scène avec vous?
Sí, la verdad que Grito Pelao es una obra que hemos concebido
entre Grito Pelao a été créé entre Sylvia Pérez Cruz et Carlos Macchieri, entre nous trois.
El trabajo más fuerte, más brutal.
Et ce qui a été le plus dur et le plus brutal, ça a été notre collaboration avec Sylvia. C'est-à-dire qu'on a vraiment mélangé. Il a fallu passer par un apprentissage assez profond. Et puis, beaucoup d'humilité. Avant tout, parce que le plus difficile, et c'est par là qu'on a commencé,
o sea, como hacer desaparecer
comment
nuestra
effacer
figura profesional.
notre personnage professionnel,
entonces,
cette image professionnelle. La première fois, on s'est retrouvés dans un studio en oubliant que Sylvia était chanteuse et que moi j'étais Bailaora danseuse.
Et puis, comme deux, bichos,
comme deux animaux, deux créatures, on s'est approchés sur le sol l'une de l'autre et puis on a essayé de créer un nouveau corps, une créature totalement nouvelle,
qu'on
ne savait pas comment appeler, on ne savait pas ce qui était en train de se passer, c'était simplement de quelque chose de très humain, de très honnête et très fort aussi. Et cela faisait très très peur.
Et c'est une partie très importante du spectacle. Peut-être il faut dire que si vous signalez, Rocío Molina, qu'il a fallu se défaire de vos personnages professionnels, c'est parce que autant vous êtes une figure mondiale du flamenco, autant elle est une figure extrêmement importante en musique, et que d'un seul coup sur scène, vous devez travailler ensemble comme, j'ai envie de dire, juste deux femmes. Je précise ma pensée, c'est parce que ce qui apparaît dans ce que vous mettez en scène dans ce spectacle-là, c'est qu'est-ce qui peut se passer entre deux femmes de l'ordre de la sororité, de l'ordre de l'entraide, de l'ordre de la transmission autour d'un projet de maternité à venir. Est-ce que c'était l'un des objectifs pour vous que de mettre sur scène ce qui se dit de manière si difficile et si imperceptible entre les femmes à ce moment-là de leur parcours?
Bueno, sí, a ver, Silvia y yo somos muy conscientes de lo que
alors, il faut bien comprendre que Sylvia et moi comprenons bien la force de ce que nous faisons et ce que nous faisons. Et on peut aussi voir que les gens peuvent tomber dans une erreur, peuvent confondre ce qu'on veut essayer de faire. Mais c'est vrai que comme nous sommes très honnêtes dans la façon dont nous exprimons, nous gardons une vraie force. Et c'est vrai que nous parlons d'un accompagnement et d'un amour lorsque l'on parle de notre travail. C'est un amour à la vie, ça va bien au-delà de l'amour. Ce serait très triste que les gens ne comprennent que c'est deux amantes. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça va bien au-delà de cela. Et puis, elle est très connue, moi aussi. Les gens me connaissent et me reconnaissent. Et puis, on peut parfois avoir cette lecture d'un amour lesbien. On a dû en parler. Peu importe, elle peut exister, cette lecture. Et moi, comme mère, elle est mère célibataire, et moi, je suis une mère qui a décidé d'être inséminée. Donc, c'est vrai qu'on peut voir ça. Et l'amour que l'on a, Sylvia ou ma mère et moi, c'est un amour qui va bien au-delà, c'est un amour universel.
C'est pas très souvent qu'on voit porter sur des plateaux de théâtre, Rocío Molina, des choses très quotidiennes, très triviales du corps féminin. Les lumières de ce spectacle peuvent faire penser à des utérus, peuvent faire penser à des menstruations, peuvent faire penser à ce qui peut se passer pendant un accouchement. On sent que vous avez voulu aller au plus près de ce que c'est que le corps de la femme, comme il se transforme quand il porte un bébé, comme il se transforme après qu'il a eu un bébé. C'est quelque chose qui pour vous n'est pas impudique.
Pues mira, precisamente impudico
eh bien justement,
era la palabra que no
impudique,
queríamos
c'est le mot que l'on ne voulait pas inclure dans le travail. Et tous nous sommes engagés à travailler sans pudeur pour pouvoir nous déshabiller totalement et aller directement vers ce qu'était notre vérité. Mais bien évidemment, c'est difficile. On retrouve des moments d'insécurité. C'est normal, nous sommes des artistes et nous avons chacun notre ego et nous devons lutter contre cet ego et ces frayeurs qui se présentent. Pour moi et pour l'ensemble de l'équipe, nous savions que c'était le chemin qu'il fallait suivre. Et peu importait la forme, mais l'essentiel, c'était de défendre cette vérité. C'est très difficile, mais ça, ce qui m'amuse beaucoup, ce qui est finalement très impudique, c'est ce qui nous arrive à tous. Alors, c'est pas quelque chose à part, hein, c'est pas exceptionnel. Avoir ses règles, menstruation, bon bah. Eh ben, nous allons tous aux toilettes aussi. Nous avons tous toutes du sein. Nous avons certains des testicules. Voilà. Donc, je ne vois pas très bien où se situe la pudeur. Alors, pourquoi? Puisque ce sont au final des choses très normales et puis très belles au final.
Mais le fait de les danser sur scène, ou peut-être le fait que ce soit si rare, est-ce que c'est pour vous une sorte de geste important de dire justement, ben, pourquoi ne pas danser ça en fait? On danse plein de choses, pourquoi ne pas danser aussi ce qui arrive au corps de la femme, au corps des hommes de manière, oui, très intime? Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez de danser ça comme autre chose?
Je comprends. Au moment de danser cela, c'est compliqué, il y a une différence. Mais entre danser et être, pour moi, il n'y a pas de différence. Alors, je dois danser ce que je suis et je suis ce que je danse. Alors, je ne me déguise pas. Lorsque je sors sur scène, non, je raconte ce que je suis. Et je suis comme toi. La seule différence, c'est que moi, je le raconte. Et je le raconte devant un public.
Et tout à l'heure, vous disiez, danser ça, c'était aussi une manière pour moi de comprendre ce qui m'arrivait, de comprendre ce qui pouvait aussi arriver à ma danse, à la manière dont cette grossesse changeait ma danse. Là, on arrive au bout de la tournée de ce spectacle, Rocío Molina. Qu'est-ce que vous avez compris ?
Bueno, he entendido muchas cosas.
De Alors, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai surtout compris qu'il fallait passer par là et apprendre tout cela. Et que je devais suivre ce chemin.
Alors,
ce qui est très bien, c'est que l'histoire est partie du plus beau côté. Quelque chose de très beau, ça aurait pu être quelque chose de tragique. Ou vraiment définitivement tragique. Mais je sais que j'aurais dû danser la tragédie si effectivement ça avait été une tragédie.
Si vous n'aviez pas eu d'enfant ou si vous aviez perdu un enfant.
Avoir un appartement en plein milieu du processus, j'aurais dû danser cela pour ne pas devenir folle. Et c'est comme ça, je suis comme ça. Et maintenant. Ça a été le plus beau. Enfin, finalement, le choix m'a mené vers ce qui avait le plus beau. Et le plus beau des apprentissages a été l'attente, cette patience. Et puis ce qui me reste à parcourir et à découvrir.
Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, Rocío Molina, ce que sera votre danse une fois votre bébé arrivé?
Bueno, pues la verdad que no me lo puedo imaginar.
Non,
y no quiero
impossible de l'imaginer et je ne veux pas. Je ne veux pas. J'ai appris la patience et je veux continuer à la découvrir cette patience. Alors j'ai peur. Je me demande comment je vais danser, comment sera ma danse et cette énergie qui maintenant n'a rien à voir avec celle qui existait avant. Mais j'ai totalement confiance. En l'avenir, parce que mon travail, c'est de découvrir et puis de le présenter et puis écouter mon corps. Et je continuerai à faire la même chose. Peu importe la forme, peut-être que ce sera moins bien ou mieux, mais je crois que ça n'existe pas. Il faut être simplement capable d'écouter mon corps. Et pour moi, c'est mon objectif. C'est la seule chose qui m'intéresse.
Bon, le spectacle va arrêter de tourner après pour vous laisser tranquille pendant les deux mois qui restent de votre grossesse. Mais est-ce que pendant ces deux mois-là, vous allez quand même danser un petit peu, Rocío Molina?
Ces deux mois, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour être honnête, j'aimerais me préparer. Et puis pour un... Vous savez, il y a un accouchement en mouvement. Je vais me préparer à cette technique. Mais il faut que je bouge, parce que lorsque je ne bouge plus, je ne me sens pas bien. Même mon esprit se met à faire des tours. Je deviens très négative. Je broie du noir, alors je danserai, même si c'est un peu doucement, je me baladerai.
Merci beaucoup, Rocío Molina. Donc, ce film dont on parle d'Emilio Belmonte va sortir le 10 octobre en salle. Il s'appelle Impulso et Grito Pelao. Ça se joue du 9 au 11 octobre au théâtre de Chaillot à Paris. merci à Paloma Goulmeau pour la traduction. Au son ce soir, c'était Emmanuel Armin, à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h quand vous voulez sur franceculture.fr pour le podcast, la réécoute et pour les petits messages. Merci beaucoup à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillé qui m'aident à penser et préparer cette émission en mouvement. Très belle soirée sur France Culture.